avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Le mois dernier, j'ai eu le plaisir de relancer les réactions et les réponses aux commentaires sur Déclencheur. Mais comme il y avait 33 pages de commentaires, eh bien, il faut le faire en plusieurs émissions. Et je vous propose de poursuivre cette semaine avec les réactions et les commentaires depuis juin 2009. Je vous le rappelle, il y a également beaucoup de discussions et d'échanges sur Déclencheur Carnet. Déclencheur Carnet qui continue à s'étendre et on y a accueilli récemment Miss Valmante. Les commentaires donc, avec des messages d'encouragement fort sympathiques reçus de Frédéric, Vince, Marc Wild Passion, Maxime, Bougie, Laurent, Philippe, Lark Savios, Magic Spoon, Poulot, Lark, Andatal, Le Béret, Frédéric, Sia, Flicodr, Le Yann, Renaud, Mélina Barala, Maxi Crow, Colinox, Joperson, Walter Proof, Ken et Seb B. Merci à vous. En juin 2009, un épisode très agréable à enregistrer, visiblement qui vous a bien plu, c'était le Café Photo à Roubaix. Il a donné lieu à une petite discussion entre Andéol et Frédéric sur comment prendre des photos depuis un bus ou un véhicule en déplacement. Et il se fait que la réponse était donnée dans l'épisode 136, Esthétique et technique en photo. Juillet 2009, un épisode sur le multiplicateur de focale. Night Angel et Maurice insistent sur la perte de qualité que ces accessoires entraînent inévitablement. Tout en ajoutant néanmoins que c'est un très bel accessoire. C'est vrai qu'il y a perte de qualité, mais il ne faut pas exagérer cet aspect. D'une part, Maurice, tu as utilisé un multiplicateur dans les années 70, il y a eu depuis de gros progrès, et je crois qu'un multiplicateur moderne de bonne qualité, avec un ratio raisonnable, je pense ou un 4 chez Nikon par exemple, donne des résultats très satisfaisants. Comme le rappelle Nohan, le principe c'est quand même de monter ces multiplicateurs sur des optiques haut de gamme. Il est clair que si vous les utilisez avec une optique familiale, le résultat sera franchement décevant. Mais surtout, une baisse de qualité, c'est quelque chose de relatif. Relatif par rapport aux autres choix en matière de prix, en matière d'encombrement. Et souvent, le choix, c'est s'offrir une bonne optique et un multiplicateur, ou se rabattre vers une optique plus familiale, pour pouvoir atteindre la focale désirée. Et dans ce cas-là, entre une bonne optique, un multiplicateur et une optique familiale, je crois que le choix est vite fait en matière de qualité. C'est d'ailleurs l'expérience que rapporte Pascal, qui note qu'il ne pourrait jamais s'offrir l'optique fixe équivalente à ce que son multiplicateur associé à un bon zoom de focale lui offre. Par bonne optique, j'entends un zoom à ouverture constante, 2.8, 4 au maximum, ou une optique fixe également très lumineuse, 2.8 ou 2. Rien de moins. Oubliez les focales familiales avec un multiplicateur. Donc encore une fois, il y a dégradation, mais à condition de rester raisonnable, on va la mesurer la dégradation, on ne va pas la ressentir sur ces photos. Sur la photo de voyage, en juillet également, juillet 2009, Tintin insiste sur la question que pose Cécile. Il faut se demander ce que l'on souhaite exprimer dans sa photo avant de la faire. Il ajoute, en clin d'œil, en particulier pour éviter le visionnage de milliers de clichés de vacances mal commentés. Narian s'interroge sur les photos de feux d'artifice, comment les réaliser, comment s'entraîner. La technique, comme le note Tintin, est très similaire à celle des orages et elle avait été décrite en juin 2007. Quant à MKO, il conseille un livre complémentaire. Dans l'épisode suivant, je discutais de différentes solutions pour déporter un flash de reportage, un sujet qui passionne et qui vous a donc fait beaucoup réagir. Avec toute une discussion entre Lark, Stécaché, Gilles, Assis, Tib, Olivier, Pierre BGT sur les qualités de différents émetteurs bon marché, comme les Cactus ou les CyberSyncs. Olivier ajoute une mise en garde pour les canonistes. Avant d'acheter un déclencheur entre guillemets bête et méchant, il faut s'assurer de la compatibilité de ce déclencheur avec les flashs Canon. Apparemment, elle n'est pas toujours assurée. Angon ajoute de l'eau à un autre de mes moulins. En comparant le prix de tous ces accessoires, on approche assez vite du prix d'un petit kit de flash de studio. Un commentaire à moduler par le fait qu'il y a des produits vraiment très bon marché sur eBay. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Idem d'ailleurs pour les flashs de studio. Il y a des flashs de studio très bon marché, d'une qualité moyenne pour être gentil sur eBay. Mais c'est un commentaire que je fais sans cesse. Attention à ne pas surdépenser. J'aime à rappeler ce que nous a expliqué David Dobie quand on l'a reçu il y a quelques mois. L'intérêt du flash de reportage, c'est un, pouvoir l'emporter partout, l'utiliser dans des mélanges lumière ambiante, lumière au flash. Et par ailleurs, c'est de pouvoir apprendre à éclairer au flash avec le matériel dont on dispose déjà. Donc c'est économique pour débuter parce qu'il n'y a pas de matériel supplémentaire à acheter, ou très peu. Mais je crois que quand on sort de ces paramètres, il faut vraiment regarder à ce qui existe sur le marché, le comparer avec ses besoins et faire un achat qui tient compte de la réalité des prix aujourd'hui. Or le prix du matériel de studio considérablement baissé depuis 2-3 ans. Daniel me trouve franchement optimiste sur la portée de l'infrarouge, ce qu'il prouve avec un exemple de photo où le flash était presque enfermé dans une machine à lessiver et il n'est jamais arrivé à le déclencher en infrarouge. Comme tous les systèmes sur Terre, l'infrarouge a des limites, mais je crois que quand on en est à enfermer un flash dans une boîte, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit, effectivement, on atteint les limites de l'infrarouge. Ça ne veut pas dire que Pour des situations plus courantes, ça ne fonctionne pas parfaitement. Lightroom Rec rappelle d'ailleurs les vertus de la mesure TTL en situation de reportage. C'est à mes yeux aussi un des grands atouts de l'infrarouge, puisqu'avec les solutions des constructeurs, on reste compatible TTL. Le TTL n'est pas magique, mais en situation de reportage, il peut être très pratique. Ma remarque, en final, était surtout de dire, avant d'acheter du Pocket Wizard ou d'autres solutions onéreuses, ne négligez pas ce que vous avez peut-être déjà. Rien à voir avec le sujet, mais Jean Gap s'inquiète de l'archivage. Faut-il, en plus des copies d'archives, mettre une copie sur un disque virtuel protégé en ligne? Je vais être très vieux jeu, mais j'ai des craintes sur la pérennité des disques virtuels. Le problème, c'est de trouver une société qui soit fiable sur la durée de l'archivage, donc 20, 30, 50 ans. Or, en 10 ans seulement, moi, j'ai vu des dizaines d'acteurs naître et disparaître sur ce marché. Ça m'inquiète pour la pérennité de ceux qui restent, et donc aujourd'hui, moi, je ne le fais pas. Quand le marché sera plus mûr, avec plus de clients, une grosse consolidation des fournisseurs, évidemment, j'aurai plus confiance. L'épisode sur le RAW d'août 2009 a entraîné pas mal de commentaires. D'abord, pour noter combien le RAW est populaire maintenant, Lightroom Rec et Frank Pix partagent également leur intérêt pour ce format. Bémalory se demande pourquoi à l'époque il n'y avait plus que des petites émissions. La réponse est venue la semaine suivante dans une émission Réponse qui a suscité de chouettes commentaires d'encouragement d'Angone, Antoine Meignier, Christophe, Gaétan et Adrien M. On est toujours en août avec un épisode sur la correction d'exposition flash. Lightroom Rec demande s'il est bon de, comme il le fait, déporter l'éclair sur un mur ou un plafond pour rester mobile et rapide tout en bénéficiant d'une relative bonne lumière, notamment pour photographier ses gamins. C'est une très bonne technique de reportage. Le flash indirect va adoucir la lumière parce qu'il va agrandir la source lumineuse. Et là, je te renvoie à un autre épisode où j'avais expliqué l'importance de la taille de la source lumineuse. Donc, il va adoucir la lumière tout en restant effectivement très mobile. Moi, j'aime y ajouter un petit réflecteur dirigé vers l'avant parce que le flash sur le plafond peut créer des ombres assez embêtantes sous les yeux et le réflecteur va les déboucher. Bon, il suffit d'une simple carte de visite qu'on met à l'arrière du flash et qui renvoie une partie de l'éclair vers l'avant. Sur de plus en plus de flash, il y a d'ailleurs un petit réflecteur plastique intégré. Depuis peu, j'ai découvert le MET58, un flash qui a deux tubes éclairs, donc un qu'on va pouvoir diriger en indirect vers le plafond par exemple, et l'autre qui reste dirigé vers l'avant pour déboucher les ombres. Pas toujours évident de les doser bien, mais c'est intéressant. Et il ne faut pas non plus, comme Lightroom Rec le propose, négliger de diriger le flash vers des murs à condition qu'il soit dans une teinte claire. Ça aura comme effet d'avoir un éclairage latéral et doux qui peut être très flatteur. Quant à Jean-Pascal P, il demande quel mode mettre pour la balance des blancs en lumière mixte. Est-ce qu'il faut mettre la balance des blancs sur la lumière ambiante, sur le flash? C'est effectivement un problème dès lors qu'on mélange deux sources de lumière et malheureusement il n'y a pas de réponse universelle. Donc il faudra un épisode complet pour y répondre. Je vais réfléchir à faire cet épisode. Mais le plus simple c'est d'avoir la même balance de blanc pour les deux éclairages. Donc par exemple en extérieur sous le soleil, le flash débouche les ombres, aura la même température de couleur que le soleil, donc on n'a pas de souci. En intérieur on place des filtres colorés devant le flash, pas devant l'objectif, hein, devant le flash, pour adapter la température de couleur du flash à la température de couleur de la lumière ambiante. Nikon a ça à son catalogue, ou plus simplement, vous prenez des fartes transparentes en plastique, une farte orange pour avoir une lumière orangée type halogène par exemple, et vous découpez un pseudo-filtre à la taille du flash. Il y a quelques années, le truc c'était de demander à un nuancier Rosco, parce que Rosco, qui est un grand fabricant de ce type de filtre, offrait un nuancier gratuitement, et il se fait que la taille des échantillons correspond exactement à une tête de flash de reportage. Bon, depuis chez Rosco, ils ont compris pourquoi tout le monde leur demandait des échantillons et ils vendent le nuancier, mais certains revendeurs le proposent toujours gratuitement ou à très faible prix. Il y aurait beaucoup à ajouter sur le sujet parce que le filtre n'est pas toujours pratique. On y reviendra sans doute dans un futur déclencheur. Nous voici en septembre. Canon annonce l'EOS 7D, un boîtier qui, on l'a vu depuis d'ailleurs avec l'annonce du 550D, annonce ou démarre en rajeunissement de la gamme. On en parle évidemment sur déclencheur, ça donne lieu à pas mal de réactions entre le scepticisme de Nemo 16 sur les éléments les plus marketing de l'annonce, la résolution accrue, scepticisme également de Gaps, qui regrette le capteur APS-C. Plusieurs auditeurs, comme Ludovic, Monsieur Joe, notent que Canon reprend des fonctions qui existent sur des boîtiers concurrents. C'est vrai, mais c'est de bonne guerre, hein, ils font tout ça. Et puis, bien entendu, le boîtier a de farouches défenseurs, comme Apps, Arnaud, Grandvillet 2 ou AMC. Antoine Meignier en fait un point vers un test. Je vais vous faire une confidence. Ce qui m'amuse beaucoup quand je lis ce genre de discussion, c'est que tout le monde parle en final de son boîtier idéal. Et personne n'accepte que son boîtier idéal, il est très personnel. C'est humain, hein, je suis aussi coupable que vous, mais ça m'amuse énormément de lire ce genre de choses. Sur la gestion des couleurs et les fichiers RAW, toujours en septembre, réaction de Thomas qui rajoute un petit conseil, vérifier que le profil pour le JPEG correspond au profil du reste de la chaîne graphique, profil ICC s'entend. Ce n'est pas indispensable puisque le profil ICC sera appliqué lors du développement du RAW, mais c'est pratique parce que ça fait en sorte que l'histogramme soit correct par rapport au reste de la chaîne. Le boîtier affiche l'histogramme à partir du JPEG. On continue avec Shoot & Prove, cette application photo pour l'iPhone. Elle illustre bien l'impuissance d'une plateforme ouverte puisqu'elle permet d'étendre un appareil photo franchement banal, celui de l'iPhone, avec de nouvelles fonctions. Vous êtes nombreux à être séduits par cette idée d'étendre par firmware un appareil photo. J'espère que certains fabricants finiront par développer une espèce d'App Store, mais on est encore très loin de cela. Night Angel pense à tort que Canon offre un SDK. C'est complètement faux. Il y a effectivement un SDK Canon, mais c'est un produit tiers. C'est même plutôt un piratage des boîtiers Canon. Et si vous l'installez, vous perdez la garantie Canon. Danine Albert et Frédéric Leveau, ce dernier étant de Prof & Shoot, discutent de la sécurité du système. C'est assez technique, vous irez lire. Karim Mogdad trouve que Shoot & Prove fait double emploi avec les solutions proposées déjà par les fabricants de réflexes. Johan, à l'inverse, trouve que c'est une bonne idée, non pas pour les photographes pros, mais pour les pros qui utilisent la photo, comme des architectes par exemple, qui n'ont nul besoin de s'encombrer d'un réflexe, mais qui ont besoin de photos horodatées. Toujours en septembre, l'état de la photo en 2009, un épisode qui annonçait le salon de la photo. Pierre fait le commentaire suivant, commentaire appuyé par Esteban. C'est un commentaire assez long, je vais le résumer en espérant ne pas le trahir, vous irez le lire dans son intégralité sur Déclencheur. Pierre dit « Attention, la photo c'est une industrie et c'est un commerce d'une part, et d'autre part, c'est une composante culturelle et professionnelle. Ces deux dernières sont l'apanage des photographes pros. Donc, poursuit-il, je donne une image complètement fausse puisque je parle de l'état de la photo alors qu'on sait que le côté pro de la photo va mal. » Trois réponses, mais globalement on n'est pas d'accord. Trois réponses. D'abord, je ne suis absolument pas d'accord avec cette analyse du monde de la photo. Il est faux et même dangereux de dire que la culture photo est l'apanage des professionnels. Pas pour diminuer leur contribution à la photo. Il est faux également de dire que les professionnels ne sont pas des commerçants. Et il y aurait quelque chose de très intéressant à dire, mais qui nous entraînerait beaucoup trop loin, sur l'industrialisation, ou plutôt le besoin d'industrialisation de la profession. Mais là, vraiment, on irait beaucoup trop loin. Mais bref, de tout temps, l'impact culturel de la photo a certes été contribué par les photographes professionnels, mais elle ne s'est pas limitée à ça. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, puisque la révolution numérique a contribué à pousser encore davantage la photo, y compris donc la production de photos, dans la culture populaire. Je vous avais présenté il y a quelque temps une exposition très intéressante au musée de l'Élysée sur ce sujet. Et Pierre, plus fondamentalement, je t'invite à réécouter un sujet de février 2008 sur l'évolution de la photo. Sujet enregistré avec Bernard Perrine. Donc, première réponse, pas d'accord sur le postulat. Deuxième réponse, je rencontre beaucoup de photographes pros via Déclencheur. Et c'est clair qu'il y a des bouleversements majeurs. Mais tous ne boivent pas du noir. Réécoute par exemple le sujet avec Marcus Bell en juillet 2009. Fait, j'en ai d'autres en préparation. Il y a des gens qui ne boivent vraiment pas du noir. Troisièmement, et c'est sans doute ça le cœur de la critique, mais il me paraissait important de rétablir les deux autres aspects d'abord. Troisièmement, je suis tout à fait d'accord que l'état de la photo que j'ai dressé dans cet épisode est partiel. C'est pas l'ensemble de la photo. C'est une évidence. Et je crois que tout le monde à l'écoute de l'épisode s'en rend compte. Mais c'est également une évidence que les titres résument les émissions. Et donc quand on résume, on dit pas tout, on simplifie. C'est pour ça qu'après il faut écouter l'émission. Et je termine la série de commentaires pour aujourd'hui avec un épisode d'octobre exposé à droite. Cette analogie que j'avais développée entre la photo et la prise audio. J'étais très heureux de vos réactions parce que j'avoue qu'en préparant cet épisode, je me disais, est-ce qu'il va vraiment être utile? Est-ce que je suis en train de me faire des idées? Vos réactions m'ont montré que non, c'était une analogie très utile. Philippe nous rappelle qu'il ne faut pas se limiter à la technique et que l'émotion peut apparaître même avec une technique imparfaite. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'à côté d'émissions très techniques, comme celle d'octobre, j'enregistre aussi des émissions où à la limite on va être à l'exact opposé en matière technique, comme les deux sujets récents sur le sténopé par exemple, ou l'émission qui viendra la semaine prochaine sur le Polaroid. Quitov demande s'il est vrai que le bruit est plus présent sur la couche bleue et pourquoi. C'est vrai, il suffit d'afficher séparément les couches dans Photoshop et ça saute aux yeux. Pourquoi? C'est un des compromis techniques dans la mise au point des capteurs. Il semble que nous sommes plus sensibles au bruit dans les teintes vertes et donc les fabricants s'attachent à y contrôler davantage le bruit. Par exemple, il y a 2 pixels verts pour chaque pixel rouge ou bleu. Lightroom-Rec demande s'il y a une raison de privilégier le curseur noir dans l'exemple que je donnais. Non, il n'y a pas vraiment de raison de privilégier ce curseur-là, si ce n'est que ça marchait bien dans l'exemple. Il faudra apprécier au cas par cas pour chaque image. On jouera plutôt de la luminosité, d'exposition, voire en fait sur tous ces paramètres en même temps. Ceci étant dit, moi j'aime bien que les parties sombres de l'image à un moment soient noires. C'est un parti pris personnel, mais je trouve que, sauf si on est évidemment sur une image high-key, avoir des éléments noirs dans l'image, ça aide à poser le regard. CB demande si l'histo d'illustration correspond au grain de café. La réponse est non. Fungus demande s'il y a un limiteur en photo comme on trouve sur les enregistreurs. Je dirais que c'est la mesure d'exposition. Il n'empêche que les paramètres sont assez fondamentalement différents, puisqu'en photo, on prend la mesure à un temps T, alors qu'en audio, on est sur un flux. Je termine par deux remarques très intéressantes d'Eric. D'abord, il dit que quand la vitesse d'exposition est trop basse, il vaut mieux un peu de bruit qu'un flou de bouger. Je crois que ce qui montre la véritable maîtrise technique d'un sujet, c'est quand on peut gérer ce type de conflit. En laboratoire, sur le plan théorique, toutes ces techniques s'additionnent. Mais sur le terrain, il n'est pas rare que deux règles entrent en opposition. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire « Ok, vu ce que je vais exprimer avec cette photo, voilà le compromis que je vais faire, voilà la règle que je vais ignorer. » Et petit à petit, ou plus nos boîtiers deviennent intelligents, plus il y a des automatismes, c'est d'ailleurs une des rares libertés qui nous reste. En poursuivant l'analogie, il note que les studios introduisent parfois des distorsions dans le son, avec un ampli à lampe par exemple, pour réchauffer le son. Et de même, en photo, on va parfois ajouter une simulation de grain pour casser un rendu qui serait jugé trop parfait. C'est tout à fait correct, c'est une très bonne remarque. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite d'excellentes photos. Je vous invite évidemment à visiter www.déclencheur.com pour laisser des commentaires sur les émissions, mais également sur Déclencheur Carnet ou sur le Wiki. À bientôt!